France Musique. Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Bonjour Arnaud Marzorati.
Bonjour.
Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce studio sur France Musique pour parler bal et danse ce matin, car vous serez ce soir, avec la clique des Lunésiens, sur la scène du Festival de Vézelay pour animer un bal, le bal qui fêtera les 20 ans, l'anniversaire des 20 ans des rencontres musicales de Vézelay. Alors ce soir, ça va chanter, ça va valser, ça va polquer, ça va guincher au rythme des chansons et des danses du 19e siècle. Et c'est vous, Arnaud Marzorati, qui êtes le chef d'orchestre de ce grand bal. C'est une première pour vous ou c'est une formule que vous avez déjà expérimentée ?
Ce n'est pas une première. On commence de plus en plus à s'intéresser aussi à ces musiques populaires autour de la danse, puisque bien sûr pour les Lunésiens spécialisés dans la chanson, il arrive un moment aussi où on a envie de faire bouger les pieds et en même temps que la langue pour pouvoir s'amuser.
Oui, donc avec la clique des Lunésiens, vous avez plutôt l'habitude du répertoire de chansons. On avait creusé votre album, vous avez pioché dans votre album 1789 et aussi Révolution lors du 14 juillet. C'est un répertoire que vous connaissez bien. Et là, pour nous mettre en jambe, je vous propose déjà d'entendre une valse d'un certain Francis Poppy. C'est un compositeur français né en 1874. Et c'est une valse lente qu'il a composée intitulée Sphinx, qui était l'un des morceaux susceptibles, on ne sait pas tout à fait, de figurer au répertoire des 8 musiciens qui formaient l'orchestre dans le Titanic, le fameux Titanic. Et d'ailleurs, je crois que cette musique est reprise dans le film de James Cameron. Alors, je vous propose d'entendre une version de ce Sphinx dirigée par une violoniste américaine d'origine hongroise qui s'appelle Edith Laurent et qui, à la tête de son orchestre berlinois, était une des reines des salles de bal au tout début du XXe siècle. entendait une valse lente de Francis Poppy. La valse, on sait tous à peu près la danser aujourd'hui, mais c'est pas la plus emblématique des danses du 19e siècle, surtout pas du début du 19e siècle. Hein. Mmh. On sortait de plutôt de contredanse, on dansait le quadrille.
Oui, c'est cela. Bah, de toute façon, on pourrait dire vraiment que peut-être la plus grande des danses, c'est le quadrille. Hein. Bon, le 19e siècle est long, et puis même ce genre de pratique de danse se poursuit, je dirais, au début du 20e siècle, tout au long de la Troisième République. Ouais. Hein, il y avait vraiment cette tradition du bal. En tout cas, ce qui est intéressant dans cet enregistrement qu'on vient d'entendre, c'est qu'on sent, alors peut-être que je me trompe, hein, parce que ça, il faudra en parler avec les danseurs, mais c'est plutôt une version à être écoutée plutôt qu'à danser, parce que là, on a le grand piège de l'interprétation, mmh. et ça va vraiment être pour nous le grand combat, c'est le roubato. Voilà, mmh. parce que là, on imagine les pieds des pauvres danseurs qui restent en suspension, qui et attendent. Là, il faut du ralenti, etc. Enfin, on est plutôt dans l'émotionnel que la vraie application du geste des mollets pour bien danser.
Je crois que la valse ne vient que beaucoup plus tard, au 19e siècle. Au début, c'était pas du tout des danses à deux, c'était plutôt des danses collectives.
Absolument.
Hein, en carré.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, de toute façon, on est encore dans cette tradition de danser à plusieurs. Hein. Tout cela est issu des bals antérieurs, effectivement. Ouais.
Alors, pour danser ce soir à Vézelay, vous avez des maîtres à danser qui apprennent au public à danser.
Oui, parce que moi, je suis un piètre danseur et je ne me permettrai pas, bien sûr, de donner des leçons à tous ces amateurs qui vont venir. On en est persuadé pour venir faire la fête et danser avec nous. Donc, on a un maître à danser, Jean-Marie Belmont, et son assistante Anouk, qui vont vraiment aider le public à pouvoir pratiquer ces danses. Parce que c'est pas si facile. On a toujours l'impression que voilà, bon bah c'est quelque chose de convivial, mais il y a quand même des choses à apprendre si on veut bien danser.
Donc Jean-Marie Belmont et Anouk Marialet ont été présents sur le festival là les deux derniers jours,
oui,
hein, c'est ça?
Oui, oui. Antérieurement, on aura donc essayé d'initier le public. Donc à danser et à chanter, parce qu'en plus, bien sûr, il y aura aussi des chansons. Donc on a envie que tout le monde puisse, pour fêter cette fin de festival, être à la fête.
Vous parliez des rythmiques qui sont peut-être plus compliquées que celles de la valse, évidemment. Je vous propose d'écouter un quadrille pour nous mettre en jambe complètement. Un quadrille cancan composé par Jacques Offenbach.
Thank you.
vous Arnaud Marzorati, vous venez aussi avec votre orchestre. Il est sûrement moins fourni que le New Philharmonic Orchestra qu'on entendait ici, dirigé par Charles Munch. Il l'avait enregistré pour le film Un fil à la patte de Michel Deville. Vous serez peut-être aussi un tout petit peu, un orchestre peut-être un tout petit peu moins étoffé que celui d'Edith Laurent qu'on entendait un peu plus tôt. Mais qui sera à vos côtés exactement?
Oui, alors déjà, donc on enlève peut-être le mot orchestre pour pas, voilà, les gens puissent imaginer que ça va être un grand feu d'artifice avec des cymbales, etc., et cuivres et vents. Non, on est un ensemble musical et on est là aussi pour reconstruire quelque chose de populaire et qui peut se passer dans la rue et de spontané. Donc on aura Elsa Moati au violon parce qu'on a besoin quand même de cet instrument à la fois noble et qui peut se transformer en instrument de violoneux dans la rue. Puis après, nous avons Mélanie Flao au flageolet, donc le fameux flageolet qui fait danser les foules, hein, parce que c'est cette petite flûte comme ça, toute simple, mais qui perce tellement qu'elle peut vraiment concentrer toute l'assistance vers cette musique. Puis nous aurons Antoine Bitran à l'orgue de Barbarie, autre instrument de la rue, Daniel Isoard au piano, donc quelque chose de beaucoup plus classique, mais quand même ce piano omniprésent pour faire danser. Et puis Pierre Cussac à l'accordéon, donc instrument quand même aussi essentiel dans cet instrumentarium. Et Delphine Guévard, qui elle-même sera la chanteuse. Et je lui fais un petit peu jouer le rôle de la grande Teresa, la célèbre Teresa au 19e siècle, qui était sans doute la chanteuse la plus populaire et représentative de cette grande époque.
Et vous-même à la voix.
Et moi-même à la voix, effectivement. Oui, aussi. Ouais.
Alors, on parlait d'orgue de Barbarie, on va entendre Antoine Bitran, avec lequel vous avez déjà enregistré. Hein.
Oui, alors Antoine, c'est quelqu'un de formidable parce qu'il ne fait pas que tourner la manivelle, hein, même si déjà c'est un art, parce que c'est pas si évident que cela finalement de pouvoir faire de l'orgue de Barbarie en étant dans un ensemble d'instruments. Il faut quand même savoir gérer tout cela, hein, cette mécanique. Et lui-même donc perce ses cartons, donc ça il y en a plus beaucoup de manière mécanique, et il fait les arrangements. Donc ça nous fait quelque chose de formidable.
Ouais. Et vous disiez que c'est pas facile pour lui de suivre un ensemble ou un orchestre. Comment est-ce qu'il lui-même fait des... Vous parliez des fameux roubateaux dans le
voilà,
basse.
C'est ça. Ouais,
il doit suivre aussi, lui, le
rythme. Oui, donc soudainement, il y a des accélérandos, des choses comme ça à gérer, mais bon, il fait ça avec... élégance, grâce et spontanéité.
Je vous propose d'entendre Antoine Bitran dans une valse de Chopin, bien évidemment. « La valse, minute numéro 1, opus 64 de Frédéric Chopin, ici par l'orgue de Barbarie, mené et percé, enfin les cartons étaient percés par Antoine Bitran, c'est bien ça, c'est lui-même qui perce ses cartons.
Oui, hein, absolument.
Alors comment vous faites, vous amplifiez l'orgue de Barbarie? Comment ça se passe? Déjà, est-ce que vous êtes en plein air ou est-ce que vous êtes dans une salle?
Oui, alors là, on sera en plein air sur la place de Vézelay, et inévitablement, on sera amplifié, parce que on n'a plus cette pratique, et ça je l'ai constaté effectivement, de pouvoir, pour ce genre d'événement, faire ça en acoustique, parce que les gens parlent, les gens vont boire, etc. Ils sortiront du grand concert, donc on a besoin, pour ramener l'assistance à nous, d'être un petit peu accompagné. Mais voilà, c'est une sonorisation, ils savent très bien faire cela à Vézelay, ils ont l'expérience de ces concerts en plein air, donc c'est pour renforcer la pratique instrumentale.
Alors, dans votre instrumentarium, vous avez choisi à la fois l'accordéon et l'orgue de Barbarie. Ils vont jouer ensemble, ils ne sont pas un petit peu concurrents? Comment est-ce que vous jouez entre ces deux instruments-là?
Non, c'est vraiment réunir toutes ces couleurs, et c'est complémentaire. Avant toute chose, au-delà de l'instrument, c'est surtout des instrumentistes qui s'entendent parfaitement bien, qui sont là pour s'amuser. C'est vraiment cette ambiance absolument décontractée. Et au-delà de tout ça, en regardant bien sûr la stricte précision rythmique pour ne pas troubler le maître Jean-Marie Belmont, hein, et nos autres danseurs, on est là aussi pour improviser, je dirais, sur des espèces de grilles, hein, si on prenait cette notion de jazz qui tourne. Donc c'est ça, on a la partition, et puis à un moment, dans cet envoûtement de la danse, et ben on peut se permettre d'improviser. C'est vraiment, pour moi, cette notion de danse et de valse. Je cite toujours deux films qui sont vraiment intéressants, c'est Le plaisir de Max Ophüls et French Cancan de Renoir, où on voit vraiment ce plaisir et ce mélange du savant et du populaire, et ce besoin d'aller danser. Ça, c'est une des nouvelles de Maupassant, où on voit ce vieux monsieur qui soudainement se masque et retrouve sa jeunesse, et il est prêt à en crever. Et c'est ça, hein, ce plaisir de danser, c'est qu'on y va quoi qu'il advienne dans la vie. On a besoin de danser.
Et du coup, vous avez besoin effectivement de ritournelles qui se répètent un peu à l'infini. Enfin, vous avez besoin de cette répétition.
C'est cela. C'est un petit peu selon le comment va réagir le public, hein, et comment l'ambiance prend. Et ça peut devenir vraiment quelque chose d'envoûtant et qui peut durer. C'est pour ça que ça ne se fait pas qu'écouter, parce qu'autrement, ça peut paraître un petit peu long, hein. C'est vraiment une musique de situation.
Vous n'avez pas de percussion dans votre petit ensemble?
Non, on n'a pas de percussion.
Ça vous manque pas?
Non, parce qu'on a tout cela avec le piano, qui peut faire ça avec ses basses, l'accordéon, etc. Non, c'est pas. Alors c'est vrai que souvent on aurait envie d'un coup de cymbale, hein, mais le coup de cymbale il est efficace pour le grand orchestre, et malheureusement, enfin non, même pas malheureusement d'ailleurs, parce qu'on arrive très bien à recréer une ambiance comme ça spontanée. Mais cela, c'était plutôt à l'époque des bals Musard ou des bals Mabi, où là, ils avaient jusqu'à 150 musiciens pour pouvoir danser. Hein, donc, mais ça, c'est un petit peu fini, ces grandes époques. On ne danse plus là-dessus. Maintenant, on a juste une seule personne pour faire danser les foules.
Alors, on parlait de toutes les différentes sortes de danses. On va y revenir. Je vous propose d'écouter une polka des tambourins d'un certain Émile Waldteufel. C'était un compositeur très réputé à l'époque, qui était lui-même un fils de chef d'orchestre, je
absolument,
crois, hein, et qui avait grandi dans une fratrie de musiciens.
Ah oui, ouais. C'était vraiment une famille de musiciens, et c'était le pianiste attitré de l'impératrice Eugénie, et lui-même, après, chef d'orchestre, qui faisait valser les plus grands sous le Second Empire. Ouais.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Thank you.
Polka des tambourins d'Emil Waldteufel. C'était l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Theodor Guschelbauer. Alors, vous parliez d'Emil Waldteufel. Qui dansait à l'époque est-ce que c'était des danses bourgeoises ou des grandes danses populaires?
On est vraiment dans les deux. C'est-à-dire qu'il y a, des balles donc organisées pour les plus grands. Et puis, il y a vraiment ces balles les plus populaires où tout le monde peut aller. Et puis imaginez, bien sûr, souvent on est toujours dans cet univers peut-être un petit peu de la capitale, mais il y a des kiosques un petit peu partout, on fait de la musique partout, on fait des fêtes partout tout l'été, exactement comme pour les 20 ans de Vézelay, mais voilà, ça se déroule un petit peu partout. Et on peut même danser peut-être avec deux instruments, parce que là on a vraiment cette notion du grand pompeux. C'est vrai qu'on se croirait presque au 1er janvier, hein. On a cette tradition maintenant de la valse viennoise, mais là, à cette époque, tout le monde dansait.
Alors, c'est une question qu'on va se poser en écoutant un tout dernier morceau ensemble, avant de se quitter. C'est un morceau dont les paroles sont écrites par Gustave Leroy en 1849, qui s'appelle « Le bal et la guillotine ». Et c'est Isabelle Druet qui va chanter. On se pose la question quand on entend ça, qui chante?
Bien, voilà.
Et qui danse.
Oui, c'est cela. Bah là, en fait, c'est toujours un petit peu cet exercice des Lunésiens. Je rappelle, donc il y a cette notion lunaire, hein, dans le choix du nom de notre ensemble. C'est de ne pas être dupe. Et effectivement, pendant que certains s'amusent, eh bien, il peut se passer des choses terribles. Et peut-être que cette musique festive des grands est là pour cacher certains troubles et certains malheurs du peuple, hein. Donc c'est ça, ce balai de la guillotine. Ce sera pas notre bal, puisque nous, je le rappelle, on est dans le bal populaire du peuple, mais effectivement, parfois le faste peut cacher la misère du peuple, et là c'était le cas. Pour cacher le bruit de la guillotine, eh bien on met de la superbe musique et on fait tourner les grandes robes, mais ce n'est pas cela qu'on fait pour les 20 ans de Vézelay.
Pour ce soir, aux 20 ans de Vézelay. Merci beaucoup Arnaud Marzorati d'avoir été notre invité ce matin. On se quitte donc avec Le bal et la guillotine, extrait d'un de vos albums Révolution.
Cortège et vous suit pour vous voir. Prêtres et bourreaux les suivent au calvaire. À l'Élysée, on dansera ce soir. À l'Élysée, on dansera ce soir. Strauss conduira la troupe musicale. Femmes valser les sons harmonieux de sa musique. Heureuse sans égale, provoqueront des soupirs envieux. Pour musique, on leur morne torture. Et pour couvrir leur cri de désespoir, le couperet grince dans ses rainures. À l'Élysée, on dansera ce soir. À l'Élysée, on dansera ce soir. Dansez, valsez, faites valoir vos charmes. Dansez, valsez, pour 600 000 francs. Là-bas, là-bas, de veuves sont en larmes. Entendez-vous les cris de leurs enfants? Laissez tomber de vos mains si bien faites votre bouquet ou votre fin mouchoir. L'exécuteur a fait tomber deux têtes. À l'Élysée, on dansera ce soir. À l'Élysée, on dansera ce soir. Oh, quel bal brillant! Quelle lugubre scène, contraste affreux, le rire et la douleur. Le président entre au bal, quelle aubaine. Les patients ont vu l'exécuteur. Le couteau tombe, il sépare, il tronc. Le sang jaillit tout noir et vient tacher le front de Bonaparte. À l'Élysée, on dansera ce soir. À l'Élysée, on dansera ce soir.
Et il est 8h56 sur France Musique. Il est grand temps de vous donner les résultats du blind test de tout à l'heure. Alors, le jeu consistait à reconnaître cet instrument. Eh bien, c'est l'oud, un oud et non du luth, bien évidemment. Différence subtile entre deux instruments de la même musique. On appelle d'ailleurs l'oud un luth de la même famille. Pardon, différence subtile entre deux instruments de la même famille. On appelle l'oud le luth oriental. Ils ont la même forme. Ils n'ont pas tout à fait le même nombre de cordes. L'oud a en général entre 4 et 6 paires de cordes, tandis que le luth a entre 7 et 11 paires de cordes, avec des cordes simples en plus. Et puis, la différence de taille, c'est que l'oud n'a pas de fret. On peut donc jouer des quarts de ton dessus. Voilà, c'est Philippe Roche à l'oud. Il est aux côtés de l'ensemble Canticum Novum dirigé par Emmanuel Bardon dans un projet qui reprend un recueil de l'aude du XIIIe siècle, 46 l'aude en langue vernaculaire italienne, dont plusieurs sont écrites en l'honneur de Saint François d'Assise. Ce recueil a été retrouvé au XIXe siècle dans une bibliothèque d'un petit village de Lombrie en Italie. Et dans l'instrumentarium choisi par Emmanuel Bardon, il y a donc, entre autres, l'oud joué par Philippe Roche, qui est aussi instrumentiste de jazz. Il a été l'élève pendant plusieurs années de Michel Petrucciani. Il enseigne lui-même le jazz aujourd'hui à l'École nationale de musique de Villeurbanne et il s'est formé au luth oriental à l'oud auprès du Tunisien Khaled Ben Yahia. Alors, quatre personnes vont recevoir ce dernier disque de Canticum Novum. Il s'agit de Dominique Fourreau, qui habite Talence, en Gironde. Joséphine Audibert, qui n'a pas précisé sa ville, mais qui va répondre au mail que veut lui envoyer Maude Nourry. Éric Signeret, de Mélan, dans l'Isère. Et Maurice Carrière, qui habite au Mureau, dans les Yvelines. Bravo à vous. Merci à Céline Parfenoff à la réalisation, Maude Nourry pour la préparation de l'émission et la mise en ligne, à la technique Cindy Le Grumelec et Déborah Dagobert. On se retrouve demain matin à 7h pour un nouveau Musique Matin.
À réécouter sur francemusique.fr.